Il y a quelques semaines, un brainstorming avec mon collègue Marc pour l'Avent et Noël, et puis on a décidé de faire du classique. L'Avent avec les quatre verbes, dont les quatre mots dont Yvonne nous a parlé tout à l'heure, l'espérance, la joie, la paix, l'amour. Vous avez des petites brochures d'ailleurs à l'entrée. C'est peut-être l'occasion d'inviter des amis, des connaissances, des personnes en recherche ou pas, pour assister à ces rencontres. La période de Noël est quand même une période favorable pour ce genre de choses. Et donc, les mots traditionnels, mais pour chaque mot, on a pensé le lier à une personne, un personnage de la Bible. Et pour l'espérance, on a choisi Siméon. Alors Siméon, il apparaît dans l'évangile de Luc après la naissance de Jésus. Jésus a à peine un mois et Siméon apparaît. Donc pour ceux qui tiennent à des chronologies exactes, on est désolé, on va parler de l'après-naissance avant même à Noël. Mais voilà, pardonnez-nous. Et j'aime beaucoup ce récit de Siméon, et je pense que... Siméon, en avant vers l'espérance, et nous lisons ensemble le texte. Les parents de Jésus, Joseph et Marie, l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Il est déjà né, hein ? En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. » Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons, au choix. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux, il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse. Car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer la nation. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur transpercé par une épée. » Siméon fait partie de mes personnages préférés avec Barnabas dans le Nouveau Testament et puis dans le tableau de Noël en particulier. Peut-être à cause de ce chant que je chantais dans ma jeunesse avec les témoins, Noël Chefneux, les Nolais se souviennent, on a les mêmes références musicales. Siméon par ta longue barbe. Bon, bref. Et un magnifique récit, Rembrandt, hein, un peintre hollandais, le meilleur peintre de tous les siècles, Rembrandt, un magnifique récit, presque une image d'Épinal. J'ai cette métaphore en tête, une image d'Épinal. J'ai vérifié ce que c'était, une image d'Épinal. C'est une vision traditionnelle et naïve qui ne montre que le bon côté des choses. Mais voilà, c'est un merveilleux récit. On a envie de mettre Rembrandt en état abstenu, des auréoles un petit peu partout. Mais ce texte est beau, ce texte est émouvant. Un vieil homme, avec un bébé d'à peine un mois, tout petit, tout faible, tout fragile, qui vagit dans les bras certainement, qui gazouille, n'y a pas d'ange qui sonne les trompettes. Hein. Non, il y a juste le vieil homme et l'enfant. Et je me dis que c'est peut-être juste pour cela que ce récit est porteur d'espérance. Ou fait d'espérance, ou teinté d'espérance, serti d'espérance. L'espérance, j'allais dire sointe, mais c'est pas le bon mot, l'espérance jaillit de ce texte. Et alors j'aimerais accrocher quelques éléments de ce récit par rapport à l'espérance. L'espérance de Siméon, sous la loupe, d'abord au verset 25, il vivait dans l'attente. On l'a lu tout à l'heure, le mot espérance n'est pas dans le texte, hein, mais il y a bien ce mot attente. Alors j'ai pris quelques livres ici et je vais citer une personne, un pasteur de l'église anglicane d'Amérique du Nord, Madame Warren, pasteur Warren, qui dit de belles choses. J'ai pris mes livres pour vous prouver que la prédication n'est pas faite avec ChatGPT. C'est ChatGPT free, ni avec l'intelligence artificielle, mais bien sur base de livres, à l'ancienne. Il vivait dans l'attente. Et celles de Marc sont ChatGPT free. Les autres, je ne sais pas, mais pour l'instant en tout cas, hein, on verra plus tard. Mais voilà ce qu'elle dit dans son livre « Vivre le temps de l'avant ». L'avant est considéré comme le temps de l'attente, mais cette attente même est faite d'espérance. Il s'agit pour le disciple de Christ d'attendre avec espérance. Et on pourrait ajouter, et elle le fait, ajouter le mot foi, espérance, foi, amour, hein, dans 1 Corinthiens 13, les vertus théologales. Mais la foi et l'espérance sont des vertus d'attente et nous en avons terriblement besoin aujourd'hui. Attente de quoi ? Attente, Marc, si tu m'entends, ouais, de la consolation d'Israël. Vous avez entendu, hein ? C'est pas dans vos versions peut-être, que vous n'avez pas sous les yeux, mais ils vivaient dans l'attente du salut d'Israël. Non, le texte, le mot dans l'original, c'est vraiment celui de consolation. Paraclésis, vous savez, paraclétos, non, ça vous dit quelque chose ? Le consolateur, dans Jean 15, 16. Le consolateur. Et là, consolation. Ou le réconfort, ou même l'encouragement. Il est venu, il est dans l'attente de la consolation d'Israël, de son peuple. Dans le du réconfort de son peuple, du salut de son peuple. Et ça me fait penser à un autre verset de la Bible, dans l'évangile de Mont sur la montagne. Et vous pourrez le continuer avec moi. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est le même terme en grec, la Bible est magnifique, que celui qui est dans Luc 2, 25. Dans Matthieu 5, 4, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et il y a une promesse, il y a une espérance de ma profonde consolation. Autre verset qui parle d'espérance, autre parole de Siméon qui parle d'espérance, tu as tenu ta promesse, et Augustine tout à l'heure a dit plusieurs fois le mot promesse. Elle a bien parlé d'ailleurs, à un moment quand elle a parlé, je me suis dit j'ai plus besoin de faire la prédication, après elle a tout dit, j'ai bien aimé son adjectif soutenu. Bon, bref, donc l'espérance, oui, est liée à la réalisation de la promesse, croire que Dieu tient ses promesses, comme pour Abraham, c'était mal embarqué pour Abraham et Sarah pour une descendance. Mais Abraham a cru à espérer, et cela, nous dit l'épître aux Romains, fut compté comme justice, promesse que sa descendance sera comme le de la autre phrase dans la bouche de Siméon qui sont teintées d'espérance, car mes yeux ont vu le Sauveur. Là, c'est véritablement le Sauveur, le sauveteur d'un petit sauvetage, le Sauveur du salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Et là, il y a un élargissement de l'espérance et de la promesse en faveur de tous les peuples, pour tous les peuples. Un élargissement qui continue par son autre. Il est la lumière pour éclairer les nations. Et là, les promesses faites à Abraham sont présentes dans ce que dit Siméon. Ils sont tu seras, ou ta descendance sera en bénédiction pour toutes les nations. On n'est plus dans le salut d'Israël, on est dans la lumière pour le monde. En Noël, ça a du sens. L'espérance s'étend, s'élargit. Et puis, l'espérance d'une lumière dans les ténèbres, dans nos ténèbres, dans les ténèbres de ce monde et dans mes ténèbres aussi. Ah, Siméon. Et puis, vous l'avez lu tout à l'heure, il y a une dernière idée qui fait un petit peu retomber l'ambiance. Les parents de Jésus, Joseph et Marie, étaient émerveillés de ce que Siméon disait de lui, de ce qu'on disait de lui, après les anges, les bergers. Mais voilà qui dit, mais il sera pour beaucoup une occasion de chute et de relèvement, ce petit bébé d'à peine un mois. Il sera pour beaucoup une occasion de chute, il sera surtout un signe qui suscitera la contradiction. Et à un moment, ça va... Je pense que c'est intéressant d'en parler dans l'espérance. C'est de dire que l'espérance ne se fera pas sans difficulté, sans engagement, et de la part de Jésus, surtout. Et l'espérance ne se fera pas sans choix difficile. À un moment, Jésus va dire, et c'est intéressant, « Je ne suis pas venu apporter la paix. » Je laisse ça à Marc qui va prêcher sur la paix dans le 14 décembre. Mais Jésus dit, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Et je fais appel à l'équipe, à Christophe Payard, l'ancien doyen de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, qui dit dans un article, « La violence de Jésus, je ne suis pas venu apporter la paix, je serai un signe, enfin c'est Siméon qui le dit, signe de contradiction, la violence de Jésus est celle du choix, un choix douloureux, parce que l'attachement à Jésus ne vient pas simplement s'ajouter à tous nos autres attachements, au contraire, tous nos autres attachements doivent être redéfinis par rapport à notre attachement à Jésus. L'espérance ne se fera pas sans choix, sans contradiction. Alors, avant de parler précisément et en sur l'espérance, il faudrait peut-être qu'on parle un peu de désespérance, n'est-ce pas ? Parlons un peu de désespoir, de désespérance. Ça vous plaît ? D'accord. Et pas seulement par contraste, mais vous allez voir. Quels sont nos lieux de désespérance ? J'ai commencé par le premier lieu, les changements du climat. Cet ours polaire, là, la banquise filoche, dissout, les eaux montent. Moi, je vous savez qu'on a une petite maison dans le Piémont pyrénéen, pas italien, et après, il y a 10 ans, donc ça fait dans 9 ans, il n'y aura plus un Escier dans les Pyrénées. Et ça m'a fait... Moi, j'ai mes crampons, j'ai mon piolet pour les glaciers, mais s'il n'y en a plus... Même le glacier, aujourd'hui, le glacier du Vignemale, la montagne la plus haute des Pyrénées françaises, 1400 mètres et de poussière, s'est réduit à une portion congrue. Les changements du climat, c'est désespérant, pas seulement pour les glaciers, mais pour tout. Alors ça dépend, hein, il y a les climato-sceptiques hein, et les climato-alarmistes. Hein, donc certains ne sont pas du tout désespérés par les changements climatiques. Et j'en parle un peu, et pas de chat GPT, livre, d'une climatologue canadienne dont le mari est pasteur, et je ne dis pas qui est femme de pasteur. Femme de pasteur, ce n'est pas un statut. Je dis le mari est pasteur. Elle a son ministère et elle est chrétienne engagée, et elle écrit un livre, elle est docteure en climatologie, elle est maître de conférences, elle donne des conférences dans le monde entier, et elle écrit un livre, et je le note parce que « Défi et espérance pour le climat ». Et la préface est écrite par Jean-François Mouhot de Arrocha, des Courmettes, à Tourette-le-Loup, enfin un peu plus haut, et plaidoyer réaliste et apaisé d'une climatologue. Je vous le conseille. Pour nourrir votre espérance malgré les changements climatiques. C'est capricieux, hein ? Non ? Le monde et ses conflits, les guerres, la violence... Et l'impression pour les baby-boomers que je suis, 1945-1965, les baby-boomers, après ces générations X, Y, Z, millénium, etc., mais que de revenir en arrière, j'en parlais à la pastorale nationale que nous avons eue il y a 3 semaines, où le thème c'était les bruits du monde, les conflits et puis toutes les bruits de guerre, comme dans Matthieu 24, et puis tout ce qui se passe, l'impression de voir un retour en arrière. Nous, on a assisté en 1989 à la chute du mur de Berlin, on se dit, la démocratie, c'est parti, c'est chouette, ça va, la liberté d'expression. Et puis, il faut le dire, aujourd'hui, dans le monde entier, un retour de systèmes totalitaires, autoritaires, fascistes, osons le mot. Et on a l'impression que l'histoire se répète, que l'histoire, disait quelqu'un d'ailleurs, bégaye, avec maintenant une course à l'armement. Vous vous rendez compte ? On s'arme. Retour du service militaire. Ça concerne quelques-uns. Bon, on parle du retour. C'est fou, hein ? Comment ne pas être un petit peu désespéré de voir... C'est un peu désespérant, l'histoire du monde. On n'a rien appris. Bon, allez. Et puis, mon environnement immédiat, mon entourage, au travail, ou même la famille, ça se passe bien souvent, mais parfois ça déraille. Et on vit, pas vous, mais... Moi, j'en vois des situations qui se bloquent. On ne se parle plus et on ne voit pas comment cette situation pourrait évoluer positivement. C'est super, les relations, mais parfois, ça peut être vraiment désespérant. On voit de belles choses, mais aussi de moins bonnes. On est parfois... J'aime pas ce mot, mais parfois il faut le dire, déçu par des personnes de notre entourage qui nous désespèrent. J'ai prêché il y a 30 ans à une pastorale, non pas 30 ans, j'exagère, 2005, à une pastorale et j'ai pris l'exemple, vous savez que j'aime le sport, l'athlétisme par exemple, les Jeux Olympiques, etc. Et je parlais du panneau qu'on peut avoir pour les résultats du 100 mètres, du 200 mètres, du 400 mètres, du 800 mètres. Et parfois, il y avait des petites lettres qui s'affichaient à côté des noms et des couloirs. Et il y avait parfois cette petite lettre dit DNS, Did Not Start. Il n'a pas commencé la course, il n'était pas là. Il avait oublié ses chaussures. Mais une autre lettre, DNF, Did Not Finish, n'a pas terminé la course. Et il y avait une troisième lettre, deux lettres, DQ, disqualified, disqualifié. Et on voit autour de nous, même dans le ministère, des gens qui ne finissent pas la course ou qui sont disqualifiés. Et parfois, c'est désespérant. Parfois, c'est ma propre personne qui est désespérante. Ma propre personne, c'est pas vous, mais la vôtre en tout cas, je la trouve parfois désespérante, fragile, limitée, finie, la finitude, ouais, vraiment, enfin non, pas finie, mais marquée par le péché, et donc parfois désespérante. Et ça me fait penser, enfin, avec toujours les mauvaises habitudes qui reviennent, ou sont toujours là, oui, on parle de sanctification, de progrès, oui, mais parfois, waouh, c'est encore le même Eric, là. C'est encore moi, c'est désespérant. Et ça me fait penser à Paul qui parle dans Romains 7 et qui dit à un moment, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et qui termine en disant, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, de ma propre personne. Alors vous allez me dire, mais c'est Noël, Eric, mince, c'est l'Avent. C'est quoi cette liste? Mais il paraît, ce n'est pas un problème de désigner les causes de désespérance. Je fais appel à Madame Warren, qui dit, l'Avent est un temps d'espérance, mais cette espérance n'est ni un privilège, ni un optimisme béat, ni un déni de la réalité. Nous ne pouvons nourrir de véritable espérance sans reconnaître la souffrance et le péché dans le monde, tant dans le monde que dans notre propre vie. L'espérance est le réconfort des pauvres et des malheureux du sermon sur la montagne. Elle n'est pas un simple contentement, une joie superficielle, fruit de nos efforts, de nos richesses ou de nos succès. Elle est chouette, cette pasteur. Enfin, moi, en tout cas, elle imprime. Et on est un petit peu comme Abraham, qui dit, pour lequel Paul dit, espérant contre toute espérance. Voilà un paradoxe, mais un paradoxe. Espérant alors que tout peut-être mène à la désespérance. Alors voilà, on repasse et on part après avoir parlé des lieux de désespérance, du lieu de l'espérance. Donc j'ai écrit, j'ai pas écrit, hélas, mais j'aurais bien aimé l'écrire. Donc je suis allé dans ma bibliothèque et comme je parlais de l'espérance pour le climat, j'ai vu aussi ce livre de N.T. Wright, un pasteur anglican, professeur, un magnifique livre qui s'intitule « Surpris par l'espérance ». Alors, de quelle espérance parle-t-il? Est-ce qu'on peut parler simplement d'une espérance, comme on dit parfois, ben, on ira tous au paradis, comme chantait Michel Polnareff, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas, c'est Polnareff, avec ses lunettes et ses cheveux. Ouais, bon. Ou parfois, ben, on ira tous au ciel. Le ciel. Espérance un petit peu vague. Et N.T. Wright, qui était dans un milieu anglican, parfois avec des gens qui relativisent beaucoup, etc., qui parlent du ciel, va nous dire ceci. Il va nous dire, si nous ne faisons pas attention, nous proposons simplement un espoir qui n'a plus rien de surprenant, en parlant juste du ciel, qui n'est plus en mesure de transformer les vies et les communautés dans le moment présent, qui ne présente aucun lien avec la résurrection de Jésus-Christ lui-même et qui n'annonce rien de la promesse des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Parce que pour N.T. Wright, l'espérance, c'est la résurrection de Christ qui la fonde. Et le lieu de l'espérance, en tant que chrétien, c'est la résurrection de Jésus. Alors on n'est pas à Pâques, je suis désolé encore du manque de chronologie de mon histoire, mais l'espérance est à la naissance de Jésus qu'elle naît, mais qu'elle s'actualise, qu'elle s'élargit, c'est à la résurrection de Christ. Et donc, N.T. Wright met l'accent sur la résurrection de Christ qui véritablement nous met en marche dans l'espérance et qui a une action dans le présent. Allez, dernière citation. La résurrection est la raison pour laquelle nous devons investir d'importants efforts aujourd'hui plutôt que d'attendre patiemment l'avenir. Sachant que rien de ce que nous faisons en Christ par la puissance du Saint-Esprit dans le présent ne sera gaspillé dans l'avenir de Dieu. Et il cite 1 Corinthiens 15. Alors, 1 Corinthiens 15, vous savez, 1 Corinthiens 15, on parle de la résurrection de Christ et Paul fait un argumentaire. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes, sa prédication est vaine, votre foi est sans objet, notre foi est une illusion, et il le dit au verset 19, si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Il y a le mot espérance là. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Et il termine son chapitre en disant, mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, et ça c'est surprenant, c'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine, que le labeur que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile, n'est jamais vain. Parce que Christ est ressuscité. Tout ce que nous faisons dans le présent ne sera pas gaspillé dans l'avenir de Dieu. Bon, pour moi, c'est une promesse qui soutient mon espérance. Et ce que je comprends, c'est que la résurrection de Jésus n'est pas juste un fait extraordinaire que je peux contempler, hein, Jésus est ressuscité, mais un fait qui m'engage à m'investir dans ce monde et à y mettre de l'espérance. Martin Luther disait, même si c'était mon dernier jour et que je devais mourir demain, je planterais quand même un pommier aujourd'hui. Le point de changement, le point où tout bascule, c'est la résurrection de Jésus. Victor Hugo, pour la bataille de Waterloo, écrivait « L'espoir changea de camp quand, je pense, Blücher, le Prussien, va arriver, les Anglo-Hollandais contre Napoléon se mettent à espérer de nouveau. L'espoir changea de camp et le combat changea d'âme. Quand l'espérance vient nous saisir en Jésus-Christ, le combat de la vie, le combat pour la vie, pour la paix, pour la réconciliation du monde change d'âme et change mon âme, change votre âme. C'est parce que Christ est ressuscité que nous pouvons vivre dans l'espérance, pas un espoir vague dans un avenir plus ou moins meilleur, si on y arrive, mais dans le Christ ressuscité à qui tout pouvoir a été donné, nous dit-il. Et je reprends Romains 7, je fais le bien que je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Qui me délivrera de ce corps de mort, de ma propre personne désespérante? Eh bien, il ajoute tout de suite après, Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, dans notre série, Vous l'avez remarqué, on a fait un énorme jeu de mots avec Marc en disant en avant. Hein, en avant. Avec un A normalement, mais là on a mis un E. Mais un petit jeu de mots orthographique, en avant, pour parler de l'avant comme quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant et de nous mettre en action, comme l'en avant de Guingamp, les supporters de foot me comprendront. Mais je me demandais quel verbe d'action on pourrait mettre avec espérance, et j'ai longuement réfléchi, mais il me semble que le verbe « porter » allait bien avec l'espérance. Porter l'espérance, comme l'athlète porte la flamme olympique en espérant que ces Olympiades soient dignes de l'esprit olympique, être porteur d'espérance dans ce monde qui semble être bien parti pour la désespérance. Avec quelques idées pour porter cette espérance au quotidien, rester humble et réaliste, comme Catherine Heyhoux dans Défi et espérance pour le climat, plaidoyer réaliste et apaisé d'une climatologue. Il ne s'agit pas d'être hors sol, de dire bon, tout va bien, madame la marquise, tout va aller pour le mieux. Ça ne va pas être facile, mais on s'y met ensemble. Restez confiant, gardez la foi dans la promesse de Dieu pour chacun d'entre nous et pour le monde des projets de paix et de bonheur, et ce Dieu qui n'a pas fini de nous surprendre par l'espérance. Et puis, restez focus sur le Christ ressuscité, avec ce bras de levier là qui fait enlever la pierre, rouler la pierre, le petit cœur. Et à cette pastorale nationale où on a discuté des bruits du monde et des désespérances du monde, ces bruits que l'on entend et qui nous découragent, on a longuement réfléchi, puis on est arrivé le mardi après-midi, on a un peu patiné dans la choucroute, là on se répétait, mais on est arrivé simplement à Jésus. Être témoin, porteur de l'espérance en Christ. Je termine par une citation, une dernière. Ah ouais, alors c'est Leslie Newbegin qui nous dit, écoutez-moi, un théologien du XXe siècle, « Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. » Alors, on n'a pas de petit bébé dans les bras comme Siméon, mais nous avons Jésus-Christ né, incarné, mort et ressuscité. Et j'imagine que je pourrais, alors un petit effort d'imagination, de le rencontrer plus tard, au bout de l'espérance, au bout de la foi, prendre mes bras, je l'imagine avec une chemise, un jean, 1m85, les bras musculeux de charpentier, et on se fait le hug. Jésus, merci, tu as été mon espérance. Maintenant, mes yeux ont vu le Sauveur, il est notre espérance. Et puis, on pourrait peut-être cette semaine prendre un petit bébé ou imaginer se prendre ce petit bébé et être à la place de Siméon et de lui dire « Mes yeux ont vu le Sauveur, mes yeux de l'espérance, mes yeux de la foi. Il est la lumière des nations. Il est ma lumière. » Je vous invite à garder cette diapo et à avoir un moment instrumental avec Fabrice. À Alors imaginons, on est tous des Siméons et on tient ce Jésus, ce petit enfant de moins d'un mois dans les bras et avec les yeux de la foi, avec les yeux de l'espérance, avec cette assurance de la fidélité de ce Dieu qui tient ses promesses et qu'il a déjà démontré dans l'histoire du monde et dans mon histoire, de voir en ce bébé notre Sauveur, celui qui ressuscite, qui par sa résurrection nous montre que la mort n'a pas le dernier mot, qu'il est la lumière sur les ténèbres de notre désespérance. Oui, comme Siméon, nous voulons dire ce matin plein d'espérance que nos yeux ont vu le Sauveur, notre consolation, notre réconfort, notre salut.